Et pour nous en parler davantage, je reçois en studio Dr Marie-Ève Coton, qui est ethnopsychiatre. Depuis maintenant 15 ans, elle se rend tous les deux mois dans les communautés inuites du Nunavik pour rencontrer des patients vivant avec des troubles de santé mentale. Bonjour, Madame Coton.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, je vais poser la question tout de suite, en fait, par rapport à votre expertise. Qu'est-ce que l'ethnopsychiatrie?
L'ethnopsychiatrie, en fait, c'est une façon de pratiquer la psychiatrie qui tient compte du milieu social dans lequel les gens évoluent et qui tient compte de leur culture aussi. Donc, c'est une discipline qui va étudier les liens entre les symptômes psychologiques et le contexte social des gens et qui va aussi s'intéresser à comment eux, dans leur culture, interprètent la maladie.
Puis justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'interprétations différentes de la maladie mentale en fonction de la culture?
Oui. En fait, moi, avec la population avec laquelle je travaille le plus souvent, donc chez le peuple inuit au nord du Québec, des exemples de ça, par exemple, beaucoup de mes patients qui, par exemple, à un moment donné, vont entendre des voix qui, dans la médecine occidentale, là, donc, représentent un symptôme de psychose qui peut avoir plusieurs causes. Mais pour certains patients, en lien avec leur spiritualité traditionnelle, ça peut leur indiquer, dans leur perspective à eux, des dons chamaniques. Parce que la place du chaman dans la société traditionnelle inuite, ben, c'était des gens qui étaient en contact avec le monde des esprits, le monde de l'invisible. Donc, ils pouvaient entendre ces esprits-là et ce monde-là. Donc, certains patients vont avoir cette interprétation-là.
Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là lorsque vous recevez vous rencontrez ces patients-là? Comment est-ce qu'il y a un traitement qui va être suivi ou on va plus regarder l'évolution peut-être de la condition? Comment est-ce que ça se passe?
Bien, d'une part, c'est de certainement entendre avec respect ce propos-là, parce que je dirais qu'un des défis de la pratique de la psychiatrie auprès des Inuits et des Autochtones en général, c'est de ne pas répéter des processus coloniaux, de ne pas répéter des traumatismes coloniaux. La colonisation, ça a été beaucoup la disqualification des savoirs autochtones, la disqualification de leur façon de voir le monde, de leur façon de voir la vie. Donc, d'écraser ces propos-là avec une invalidation médicale, une disqualification de leur discours, ça répète quelque chose de très traumatique pour eux. D'autre part, c'est d'entendre donc ce qu'eux pensent de leurs symptômes, ce que leur famille pense de leurs symptômes et qu'est-ce qui est problématique pour eux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, j'ai soigné à un moment donné un monsieur qui entendait des hallucinations et qui avait en même temps plusieurs autres symptômes qui le dérangeaient. C'est-à-dire en même temps que l'émergence de ces symptômes-là, il s'est mis à mal dormir, à être désorganisé, à faire des gestes un peu incompréhensibles pour le reste de sa famille. Et pour lui et pour sa famille, le fait de pas dormir, ça, c'était problématique. Le fait d'être incohérent quand il parlait, ça, c'était problématique. Donc, on lui a donné un traitement antipsychotique qui a enlevé ces symptômes-là et qui a diminué la quantité de voix qu'il entendait. Par contre, d'entendre un peu de voix pour lui, c'était en fait quelque chose de positif pour lui parce qu'il pensait que c'était un don de chaman et la famille autour de lui partageait cette croyance-là. Donc, ce qu'on a fait comme compromis avec eux, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de ne pas augmenter le traitement jusqu'à un point qu'il n'ait plus d'hallucination. Donc, on a fait un compromis de dire qu'on allait laisser le traitement à une dose qui enlevait les symptômes qui, pour eux, étaient représentatifs d'un problème, mais qui laissaient certains symptômes qui, dans la vision de la psychiatrie, sont des symptômes de maladie, mais qui, dans leur vision à eux, est plutôt le signe d'un don spirituel.
Et surtout, si la personne reste fonctionnelle, finalement, et ne représente pas un danger pour elle-même ou pour les autres, il n'y a pas de problème à ce moment-là à justement ne pas irradier totalement, en fait, les
Absolument.
symptômes.
Parce qu'on définit en fait la maladie par le dysfonctionnement ou la souffrance. Donc, si les symptômes en tant que tels n'engendrent pas un dysfonctionnement, comme il était au tout début, il était trop envahi pour se concentrer, par exemple, pour aller à l'école. C'est quelqu'un qui était encore scolarisé. Donc, ça l'empêchait de fonctionner. Mais avec les petites voies qui lui restaient résiduelles, d'une part, ça ne le faisait pas souffrir et ça ne l'empêchait pas de fonctionner. Donc, on ne peut plus parler de symptômes pathologiques à ce moment-là. Tout à fait.
Et est-ce que certaines conditions dans lesquelles vivent les populations peuvent être la cause de certaines maladies mentales?
Bien, je pense que oui, en tout cas, contribuer. La condition, par exemple, si je regarde encore une fois chez les Inuits, une des conditions sociales les plus marquantes, c'est la pauvreté économique et l'absence de développement économique. C'est-à-dire que pour les gens qui recherchent des emplois, qui veulent authentiquement travailler là-bas, c'est pas facile de se trouver un emploi. Donc, ils sont beaucoup dans l'oisiveté, beaucoup dans le désœuvrement, pas par choix, mais parce qu'il n'y a pas possibilité d'accéder à autre chose. Et ça, dans des présentations de découragement, de gens qui... De présentation, ça peut avoir l'air, d'une certaine façon, là, en surface de la dépression, mais c'est pas tant une dépression biologique ou organique, c'est qu'il n'y a pas possibilité d'accomplissement chez les gens. Donc, ce genre d'enjeu-là, je pense que oui, ça a une influence directement sur les maladies mentales.
Et qui vous réfère les patients que vous rencontrez?
Là-bas, il y a des omnipraticiens qui pratiquent, qui vont me référer des patients. Il y a des infirmières et des travailleurs sociaux qui sont aussi permanents sur le territoire qui vont me référer des patients. Et il y a les assistantes sociales qui sont du personnel inuit sur place qui travaillent avec le travailleur social qui peuvent aussi me référer des patients. Donc, ces gens-là sont permanents dans les communautés. Ils sont ceux qui m'envoient des références.
Avez-vous besoin parfois d'avoir les soutiens d'un interprète pour pouvoir, dans vos pratiques, pour rencontrer des gens?
Oui, il y a un certain nombre de personnes dans la population inuite qui sont unilingues inuktitut. C'est de moins en moins fréquent. Ça correspond plus à la population des aînés, je dirais des 60 ans et plus, où c'est plus fréquent que les gens n'ont pas appris soit le français ou l'anglais comme langue seconde. Chez les 60 ans et moins, habituellement, les gens ont une langue seconde, que ce soit le français ou l'anglais. Les gens aussi, même quand leur langue seconde est plus ou moins rudimentaire, les gens, souvent, pour des raisons contextuels vont préférer ne pas prendre d'interprète parce que ce sont de très petites communautés. Donc, il y a deux des villages où je vais pratiquer, c'est des villages de 500-600 personnes. Alors, un des problèmes qu'on a, c'est que l'interprète, forcément, tout le monde la connaît et elle connaît tout le monde. Donc, dans des enjeux en santé mentale où les gens sont très sensibles avec raison à la confidentialité, ils vont préférer faire une entrevue avec une langue seconde rudimentaire que d'accepter la présence d'un interprète. Mais ça arrive quand même qu'on le fait, particulièrement avec les gens plus âgés.
C'est peut-être une question délicate que je vais aborder, mais donc on parle des Inuits aussi comme un peuple assez réservé. Pour ceux qui ne vous voient pas, puisqu'on est à la radio, vous avez la peau blanche, vous arrivez du sud du Québec. Est-ce que vous avez rencontré des réticences lors de vos premières visites sur place là-bas?
Moi, je m'y attendais, compte tenu justement de la disparité culturelle, compte tenu aussi que historiquement, la rencontre entre ces deux populations-là a eu beaucoup d'enjeux traumatiques et difficiles là, pour les Inuits. Donc, je m'attendais à beaucoup de réticence, à de la méfiance, à ce que ça prenne du temps, que les gens se confient, me fassent confiance. Il y a des enjeux de confiance qui se sont joués. Je dirais que, comme il y a beaucoup de professionnels là-bas qui vont travailler mais ne restent pas longtemps, pour toutes sortes d'enjeux, parce qu'il faut se déplacer, parce que, bon, c'est aussi... ça confronte à certains enjeux de la pratique qu'on n'a pas dans le Sud. Donc, les gens sont habitués à des professionnels qui roulent. Et je trouve que quand les gens se sont aperçus qu'on allait durer plusieurs années, qu'on dépassait le cap des 2, 3, 4 ans là-bas, ils se sentent plus en sécurité d'ouvrir et de ne pas avoir à changer continuellement de thérapeute. Mais globalement, j'étais surpris par les dévoilements des gens et par l'absence de méfiance que j'avais anticipée sur le plan, je dirais, politique là, ou historique. Parce que les gens, en fait, on dirait qu'un des facteurs que j'avais pas vu venir, qui a été plus déterminant, c'est d'avoir la possibilité de parler à quelqu'un qui fait pas partie de leur communauté. Parce que justement, encore une fois, dans une dynamique de très petits villages intriqués, des villages de 500-600 personnes, c'est pratiquement impossible pour eux de se confier à quelqu'un qui est vierge un peu de leur histoire, qui les connaît pas, qui connaît pas les gens au sujet desquels ils vont se confier aussi, les gens avec qui ils peuvent avoir des tensions. Et ils ne veulent pas nécessairement que ça soit connu de tout le monde. C'est des enjeux délicats. Donc, moi, la façon que je fonctionne, c'est que j'arrive dans un village, je reste 3 jours là. Après ça, je m'en vais dans un autre village et je fais ça aux 2 mois. Donc, je suis une apparition dans le village de 3 jours. Je ne fais pas partie de cette communauté-là. Donc, pour eux, c'est très sécurisant d'avoir comme ça un regard extérieur puis quelqu'un qui s'en va après. Donc, qui n'aura pas de risque de bris de confidentialité, qui n'aura pas de risque non plus d'avoir des préjugés à leur égard. Donc, ça semble être un facteur qui est extrêmement important pour eux et pour beaucoup de personnes, ça surmonte le blocage que pourrait causer là, la disparité politique et culturelle.
Oui, Marie-Ève Coton, apparition sécurisante dans les communautés du nord du Québec. Vous êtes ethnopsychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.